Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci beaucoup à la librairie Mola pour son invitation. Et merci à Céline Spector pour sa présence. Céline Spector est professeure d'histoire de la philosophie et de philosophie politique, en particulier de philosophie politique des Lumières, à l'université Paris-Sorbonne, anciennement Paris 4. Et puis, elle revient d'une certaine manière sur ces terres, puisque elle a été professeure à l'université Bordeaux-Montaigne. Ses champs de compétences et d'expertise sont nombreux. C'est sur, en fait, l'économie et la politique chez Montesquieu qu'elle a soutenu une thèse en 2000. Et depuis, avec Rousseau et la philosophie des Lumières, en général, Montesquieu est demeuré une sorte d'auteur décisif dans ses recherches, y compris dans leur version, le versant le plus contemporain. Je pense notamment à Anno Demos, qui est sorti « Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe », qui est sorti en 2021, dans lequel, qui porte en fait, qui est une réflexion sur la construction européenne, dans lequel Montesquieu a une place de choix. C'est donc tout à fait logiquement que vous sortez cet ouvrage chez Vrin, en parallèle de la présence de Montesquieu au programme de l'agrégation de philosophie cette année. Donc vous venez aujourd'hui nous parler de Servitude et Empire Montesquieu, des lettres persanes à l'esprit des lois. Il s'agit d'une compilation d'articles écrits entre 2004 et 2024, alors ce qui confirme en effet que Montesquieu est une sorte de base continue comme ça de vos recherches. Et ces articles sont rangés tout à fait logiquement pour former des chapitres d'un ouvrage qui permet de restituer, à mon sens, avec clarté et finesse, l'essentiel des thèses de Montesquieu en matière de philosophie politique. L'ouvrage constitue pour cette raison une introduction tout à fait importante à la pensée du philosophe des Lumières. Et donc, je vous propose de vous entretenir avec moi pendant une petite heure pour parcourir l'essentiel des thématiques abordées dans votre ouvrage, à la suite de quoi nous discuterons avec le public. Alors, le maître ouvrage de Montesquieu, L'Esprit des Lois, est publié en 1748. Montesquieu est donc un philosophe des Lumières. Pourriez-vous nous rappeler qui il est et quel fut son rôle et son importance au XVIIIe siècle ?
Alors, merci beaucoup, Pierre Crétois. Je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis heureuse d'être là ce soir. Je ne vous vois pas, donc je vois une sorte de noir obscur, mais en tout cas, je suis vraiment très heureuse d'être là et de pouvoir présenter ce livre. Donc, Montesquieu, alors je pense que vous en savez déjà deux ou trois choses, je vais aller à l'essentiel, est un auteur qui est né non loin d'ici, au château de la Brède, qui a fait ses études au collège de Juilly, puis des études de droit, à Bordeaux notamment. Il a hérité d'une charge de conseiller au Parlement de Bordeaux qui ensuite, à partir de 1726, s'est transmuée en un poste plus important, un office. Hein, c'était la vénalité des charges de l'Ancien Régime. Il a hérité de son oncle, disons cet office assez impressionnant, d'être président à mortier du Parlement de Bordeaux. Il a siégé au Parlement de Bordeaux et en particulier à la cour criminelle de La Tournelle. Alors, on dit qu'il était peu, disons, enclin à le faire, mais il a quand même siégé, il a jugé hein, des cas. Et donc, c'est un magistrat, d'abord, un juriste. Il se définit lui-même comme un jurisconsulte. Hein, et je pense qu'en fait, c'est un point important, disons, pour comprendre sa démarche, évidemment, dans son œuvre. Mais Montesquieu, c'est aussi un savant. Et il participe, dès 1716, à la fondation de l'Académie de Bordeaux, où il va présenter de très nombreux travaux scientifiques sur les sujets les plus divers, notamment sur la cause de l'écho, sur les glandes rénales, sur la pesanteur des corps. Il s'intéresse également en fait au temps de respiration comparé des canards et des oies. Donc il est amené à faire des expérimentations. Il coule sous l'eau pour voir le temps, disons, de respiration des uns et des autres. Donc vous voyez, c'est vraiment un savant qui expérimente. Hein, il fait partie de cette fièvre des académies de province. Et puis, en 1721, le premier chef-d'œuvre, Les Lettres persanes, publié de manière anonyme à Amsterdam, qui est un succès absolument spectaculaire. Donc, tout le monde finit par savoir assez rapidement qu'en fait, c'est Montesquieu derrière l'anonymat. Ça ne l'empêche pas d'entrer hein, à l'Académie française et vers 1727, en 1728, de partir pour un grand tour européen. Donc, il visite l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Hollande, l'Allemagne. Et bien sûr, on y reviendra, l'Angleterre, où il séjourne pendant plus de 18 mois. Alors, à son retour, il rédige et publie un ouvrage majeur sur l'histoire romaine, les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, qui devait être initialement suivi d'un petit opuscule, les réflexions sur la monarchie universelle, que Montesquieu n'a pas publié par prudence. Donc il a finalement tout détruit, sauf un exemplaire, on y reviendra peut-être plus tard. Et puis, il commence à tâtonner autour de la documentation préparatoire à l'esprit des lois. Vers 1739, hein, c'est la date aujourd'hui, disons, admise, notamment par sa biographe Catherine Volpiac-Auger, actuellement qui dirige l'édition des œuvres complètes, il se met au travail et cette œuvre germe petit à petit pour donner, en 1748, publié à Genève, là aussi de manière anonyme, l'esprit des lois. De l'esprit des lois, avec un X à la fin. Cette œuvre est un succès absolument colossal, européen. C'est avec la nouvelle Héloïse de Rousseau et l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, l'une des œuvres des Lumières qui a clairement eu le plus de succès au XVIIIe siècle, traduit dans de nombreuses langues, quasiment immédiatement en anglais. Certains disent qu'il a tourné la tête de tous les Européens, hein, c'est l'abbé Rénal. Donc, vous voyez, il y a une sorte de réception immédiate extrêmement féconde, mais aussi de très nombreuses critiques et censures de la part des jésuites, les mémoires de Trévoux, de la part des jansénistes, hein, les nouvelles ecclésiastiques, de la part aussi du Vatican, puisque l'esprit des lois sera mis à l'index en 1751. Et donc, Montesquieu va devoir se défendre, y compris devant les censeurs de la Sorbonne. Et la fin de sa vie est un peu difficile, hein, puisqu'il meurt en 1755, dans une situation où, sans être directement persécuté, hein, il ne doit pas partir en exil, il est clairement sous le feu de très nombreuses critiques.
Merci. Donc, au fond, Montesquieu est principalement connu pour sa théorie de la séparation des pouvoirs, je mets des guillemets, qu'il décrit en référence à la Constitution anglaise, au chapitre 6 du livre 11 de l'Esprit des lois. J'aurais aimé vous poser quelques questions à ce sujet, parce que d'abord, bon, il semblerait qu'il y ait un faux-semblant au sujet de la séparation des pouvoirs, parce que cette séparation n'est pas tant que ça une séparation. Quelle est sa théorie, précisément, en la matière ? J'aimerais ensuite que vous nous disiez ce qu'a d'essentiel, en tout cas son approche, y compris dans le cadre de nos démocraties contemporaines.
Merci beaucoup, parce que c'est une question essentielle. Alors, je vais essayer d'être brève, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est que Montesquieu, lorsqu'il est en Angleterre, hein, je vais juste rappeler deux ou trois points biographiques, à l'occasion d'observer alors non seulement la cour, mais également les chambres, et le fonctionnement plus généralement de la vie politique anglaise. Et à l'époque, l'Angleterre, depuis la Glorious Revolution, 1689, c'est ce qu'on pourrait appeler la première monarchie constitutionnelle, monarchie parlementaire du monde. Et Montesquieu l'observe, il prend des notes, il lit les journaux, il y a vraiment des affrontements très forts avec une liberté de la presse bien supérieure à la liberté qui existe en France. Et ce qu'il observe, c'est un pays où, à ses yeux, la liberté politique est extrême, où elle est l'objet direct de la Constitution. Et dans l'esprit des lois, Montesquieu va construire un modèle. Il ne va pas seulement refléter ses notes de lecture, ses notes de voyage. Il va construire un modèle qui est un modèle de, alors on va dire, de distribution des pouvoirs. Je vais l'expliquer dans un instant. Ce qui est important, c'est que Montesquieu part de l'idée selon laquelle, pour être libre, pour que le citoyen soit libre et se sente libre, il faut impérativement que les trois principaux pouvoirs de l'État, alors pour simplifier, je dirais, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, que ces trois principaux pouvoirs ne soient pas retenus, assemblés, on pourrait dire dans les mains d'un même homme ou d'un même corps. Hein, j'insiste, ou d'un même corps, parce que même si c'était un parlement, par exemple la Chambre des communes, hein, qui est élue par une partie du peuple, eh bien, ce serait la même chose, il y aurait une forme de despotisme, un régime en fait extrêmement dangereux aux yeux de Montesquieu. Donc voilà le point de départ, il faut éviter, le despotisme, la tyrannie, et pour cela, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, et c'est à partir de cette construction que Montesquieu va chercher, on pourrait dire, les conditions constitutionnelles de la liberté politique, ce qu'il appelle le droit politique. Alors, de la Constitution d'Angleterre, Montesquieu va essayer de trouver quel est le bon système qui permet de sauvegarder la liberté des citoyens. Alors, il y a quelques conditions, notamment du point de vue du Parlement, puisque c'est un système parlementaire, il faut, aux yeux de Montesquieu, que ce Parlement soit bicaméral. Et Montesquieu s'oppose à toutes les solutions monocamérales. C'est un débat qu'on pourrait avoir avec les partisans de Rousseau, par exemple, qui, eux, seraient favorables à un monocaméralisme. Montesquieu considère qu'il faut une Chambre des communes qui soit élue par le peuple, en tout cas tout le peuple qui a le droit de vote à l'époque, et une Chambre des lords qui soit effectivement représentative de, on pourrait dire, l'élite. Alors l'élite nobiliaire, mais aussi éventuellement une élite grande bourgeoise qui aurait pu s'élever à la Chambre des pairs. Il faut bien sûr un monarque aux yeux de Montesquieu qui exerce le pouvoir exécutif dans l'urgence si nécessaire. Il y a une question de rapidité de l'action politique qui demande un pouvoir exécutif tenu par un prince. Et puis un pouvoir judiciaire qui soit séparé des autres et qui soit non pas le fait de magistrats professionnels, mais, et c'est très intéressant, de jurys populaires. Donc un pouvoir judiciaire où le juge, en réalité, se contente d'être, dit Montesquieu, la bouche de la loi. Alors pourquoi ne peut-on pas parler de séparation des pouvoirs, comme on le fait en réalité très souvent? Parce que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est très inspiré de Montesquieu, dit que voilà, toute constitution où la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée n'est pas une constitution. Alors, en réalité, c'est un juriste bordelais, Charles Eisenman, qui le premier a essayé de faire ce travail de lecture un peu plus subtil. Et dit, si on avait une lecture vraiment séparatiste de Montesquieu, on dirait qu'il faut que les trois pouvoirs soient premièrement absolument distincts les uns des autres. Donc on aurait le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Deuxièmement, chaque organe serait exercé en totalité par une entité. Donc le pouvoir législatif par le Parlement, les deux chambres, le pouvoir exécutif par le monarque et le pouvoir judiciaire par les tribunaux. Et enfin, il faudrait qu'il n'y ait aucune influence, aucune interférence entre, on pourrait dire, les différentes parties du triangle institutionnel. Or, ce n'est pas du tout cela que dit Montesquieu dans ce célèbre chapitre. Donc, pour vous donner quelques exemples, d'une part, Montesquieu considère que le pouvoir législatif appartient au Parlement, mais aussi au monarque. Et Montesquieu le dit, le monarque fait partie de la puissance législative. Il fait partie de cette puissance, non pas par sa faculté de statuer, donc d'initier des lois, mais par sa faculté d'empêcher, c'est-à-dire par ce qu'on appelle son droit de veto. Et petite parenthèse, ce débat sur le droit de veto du monarque, on le retrouvera en France au moment de la Révolution française, en 1791, au moment de la réflexion sur la Constitution de septembre 1791. C'est une question fondamentale. Deuxième petit élément qui conduit à revenir sur la séparation, Montesquieu considère qu'il est tout à fait légitime que la Chambre des Lords puisse se voir attribuer certains procès qui concernent les nobles. Donc on n'a pas de séparation stricte là non plus. Et enfin, le plus important de tout, Montesquieu considère que l'exécutif est responsable devant le législatif. Ça, c'est quelque chose qu'on a évidemment dans notre Constitution et qui est essentiel. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif doit rendre des comptes. Et le cabinet, c'est-à-dire l'ensemble des ministres autour du monarque, doit se présenter devant le Parlement, il doit répondre aux questions du Parlement, il est directement responsable devant lui. Et donc on n'a pas du tout une séparation stricte. Montesquieu dit même que les trois pouvoirs sont distribués et fondus. Fondus, donc pas complètement séparés. Ce qui intéresse Montesquieu, c'est l'équilibre, c'est la balance. Ce qu'on appellera avec Madison les checks and balances, et comment les pouvoirs entre eux sont capables de s'opposer aux tentatives d'oppression qu'un pouvoir pourrait exercer sur un autre. Mais pour cela, il faut éviter une séparation trop rigide. Voilà pourquoi il vaut mieux parler à mes yeux de distribution plutôt que de séparation des pouvoirs.
Merci beaucoup. Alors, il y a un autre point qui rend Montesquieu particulièrement fascinant, c'est qu'en fait, en général, on fait beaucoup de la raison, voire du raisonnable, l'objet du politique. C'est aussi ce que fait Montesquieu, mais par ailleurs, il accorde une place très importante aux passions. En politique. Ce qui en fait, en un sens, un peu l'héritier de Spinoza, ou quelqu'un qui pense avec Machiavel et Spinoza. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il y a à espérer d'une sorte de détour par une théorie des passions pour penser le politique à partir de Montesquieu ?
Merci, parce que là aussi, je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, on s'indigne perpétuellement dans la vie politique du fait que les gens sont irrationnels, que notre politique est déraisonnable. Je ne voudrais pas donner d'exemples politiques précis, mais je pense que chacun en a en tête. De s'étonner devant tant d'irrationalité et de chaos. A-t-on vraiment progressé depuis les Lumières ? Enfin, c'est quand même un sujet assez tragique. Je pense que Montesquieu est l'un des, enfin, à mes yeux, hein, l'un des philosophes qui nous permet le mieux de comprendre cette situation chaotique, malgré tout, que nous vivons encore, parce qu'il a compris que les passions fondamentales de la vie politique, ben, ce sont d'abord des passions de domination. Montesquieu est conscient que le désir de domination, une fois les sociétés créées, c'est un désir universel, et tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. C'est une expérience éternelle. Donc Montesquieu ne se fait aucune illusion sur la capacité des hommes à être spontanément vertueux, surtout chez les peuples modernes. Et il est très conscient du fait que ce sont seulement les institutions qui peuvent modérer le pouvoir, qui peuvent le limiter, qui peuvent le tempérer, et qu'il ne faut pas compter sur la vertu des hommes. Et donc, de ce point de vue, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que Montesquieu étudie les passions, et il étudie les passions singulières au sein de chaque régime politique particulier. Alors, pour vous donner quelques exemples, hein, dans la typologie des gouvernements, sur laquelle on reviendra peut-être, hein, la classification des régimes, Montesquieu donne une grande tripartition, donc il y a la République, la monarchie et le despotisme. Chacun de ces régimes est doté d'une passion dominante qui gouverne en quelque sorte ce régime et qui l'anime, qui en est le ressort, la passion dominante aussi bien pour les gouvernants que pour les gouvernés. Et donc, il considère, par exemple, que c'est l'amour des lois, l'amour de la patrie, l'amour de l'égalité qui domine dans les républiques et surtout dans les démocraties, et que dans les monarchies, c'est l'honneur, le désir de distinction, ce qu'on appellerait aujourd'hui le désir de reconnaissance, qui est, en quelque sorte, ce qui donne du ressort à ce type de régime. Et enfin, dans les États despotiques, c'est la crainte. La crainte de la sanction, la crainte de la mort violente. C'est le régime fondamental, disons, de la terreur. Alors, Montesquieu est un penseur de la cruauté en politique. C'est pour ça aussi qu'il nous est si utile, aujourd'hui, où les dictatures, les régimes autoritaires sont encore des régimes, hélas, dominants, hein, dans le monde où nous vivons. Montesquieu est très conscient que les États despotiques, dont la crainte est le principe, sont les régimes les plus diffusés dans le monde. La plupart des peuples y sont soumis, malgré leur haine de la violence et malgré leur amour de la liberté. Et c'est le paradoxe fondateur de sa philosophie. Et c'est un paradoxe auquel nous sommes encore confrontés. Comment se fait-il que l'homme qui aime tant la liberté soit presque partout encore opprimé ? C'est la question de la servitude et de l'empire. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ce titre à l'ouvrage. Et donc, si vous voulez, je pense que Montesquieu est celui qui nous permet le mieux de comprendre ses ressorts passionnels du politique et la manière dont le législateur doit en quelque sorte canaliser, réorienter les passions de telle sorte qu'il puisse en quelque sorte soutenir les régimes politiques et éviter autant que possible le régime despotique. Alors on pourrait rentrer dans beaucoup plus de détails. Ce qui est passionnant, c'est que Montesquieu a aussi toute une théorie des caractères nationaux, de la singularité culturelle, hein, des États, et il considère que certaines passions qui paraissent très bonnes, par exemple, une sorte de douceur chez les Indiens, de candeur, peut se retourner politiquement et conduire à soutenir le despotisme, alors que des passions qui semblent plutôt néfastes, comme l'opiniâtreté, l'impatience des Anglais, est au contraire le ressort de la liberté. Et donc c'est une théorie très nuancée, très subtile, des passions qui font que Montesquieu se fait l'héritier de Mandeville, qui est un auteur du siècle précédent, enfin du début du XVIIIe siècle. Voilà, pour Montesquieu, les vices privés, hein, les passions privées, peuvent devenir des vertus politiques. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant dans sa philosophie. On peut retourner les passions, et le législateur, le bon législateur, c'est celui qui sait en quelque sorte organiser les passions pour préserver la liberté.
Et vous insistez sur, au fond, la... l'attention de Montesquieu aux différents types de sociétés. Et en même temps, au fait que il semble donner une valeur intrinsèque à la liberté. Et alors, c'est une question qui traverse, je pense, tout lecteur de Montesquieu. Défend-il une certaine conception de la justice ou bien construit-il une science des systèmes de gouvernement, donc une science neutre, sans aucune, sans défendre l'une plutôt que l'autre. Et donc la question est de savoir si Montesquieu défend des valeurs ou bien si, au fond, il produit une science avec peut-être le relativisme qui pourrait accompagner cette démarche.
Alors c'est une des questions les plus difficiles. Hein. Tous les exégètes de Montesquieu, il y en a peut-être dans cette salle, se heurtent en fait à cette question qui est presque insurmontable. C'est-à-dire que d'un côté, et c'est la préface de l'Esprit des lois qui nous le dit d'emblée, Montesquieu prétend expliquer. Il prétend rendre raison des lois, des mœurs, de toutes les institutions, de tous les peuples de la Terre. Et il dit, dès la préface, qu'il ne veut pas censurer les mœurs, les lois. Il n'est pas là, nous dit-il, pour juger ou pour disqualifier, pour mépriser. Il veut comprendre. Et face à l'infinie diversité des lois et des mœurs, son ambition, c'est de rendre intelligibles les causes des institutions. Donc on pourrait dire une science neutre, une science impartiale, une science objective du politique. Et en un sens, hein, c'est pas un hasard si Montesquieu a été aussi considéré comme l'un des premiers sociologues. Alors c'est le cas par exemple chez Auguste Comte, c'est le cas chez Émile Durkheim, c'est le cas chez Raymond Aron. Donc on a toute une lignée de penseurs fondamentaux qui nous disent Montesquieu, c'est le premier sociologue. Et c'est surtout Durkheim qui a vraiment construit cette interprétation, c'est passionnant. Il nous dit qu'en réalité, Montesquieu, c'est le premier penseur de la loi sociologique, des lois des sociétés. Il prend les faits sociaux comme des choses et il essaye d'en comprendre les causes. Alors néanmoins, c'est là qu'il faut faire la part des choses, Durkheim lui-même est tout à fait conscient qu'il y a encore chez Montesquieu cette grande figure philosophique du législateur. Le législateur, et Montesquieu se veut le conseiller du législateur, le législateur, c'est celui qui doit faire de bonnes lois. C'est pas quelqu'un qui doit juste comprendre ce qui se passe, et voilà, c'est pas un savant, c'est un praticien de la politique. Et donc il doit comprendre la juste marge de manœuvre dont il dispose pour réformer un pays, par exemple. Pas quelque chose qui doit vous être complètement étranger. Hein. Si on veut bien réformer, il faut connaître les mœurs, il faut comprendre l'histoire des lois, il faut le faire avec beaucoup de subtilité et de finesse. Et donc, ce que nous dit Durkheim, c'est que, à ses yeux, lui qui est un vrai sociologue, ce que Montesquieu n'a pas complètement compris, c'est le fait que le législateur n'était pas un nomothète, hein, une sorte de démiurge qui serait capable d'instituer des lois, mais qu'en fait, le législateur doit être un scribe qui se contente de recopier les mœurs, en quelque sorte, de les transcrire. Mais ce n'est pas cela que Montesquieu a fait. Et donc, il faut bien comprendre que Montesquieu, dans l'Esprit des lois, il condamne, il juge, et de fait, il censure. Il censure toutes les formes de servitude. Servitude politique, le despotisme, le pire régime, un repoussoir absolu à ses yeux, un monstre politique. Deuxièmement, la servitude civil, l'esclavage, la traite, on y reviendra peut-être. Montesquieu en est un fervent opposant, bien sûr. Et troisièmement, la servitude domestique, l'enfermement des femmes, la polygamie, tout ce qui fait que les femmes ne sont pas libres. Montesquieu est là aussi très attentif à cette servitude des femmes. Et donc, on voit que Montesquieu condamne très violemment la torture, hein, il condamne très violemment l'inquisition, il condamne très violemment la cruauté des peines, et notamment la manière dont on condamne en France les délits de blasphème sous l'Ancien Régime, les délits relatifs à l'hérésie, à la magie, à la sorcellerie. Donc évidemment, on a tout un éventail, une panoplie de condamnations absolument fermes. Et donc, il serait complètement illusoire de croire que Montesquieu est un pur sociologue qui décrit ce qui se passe. Montesquieu, c'est pas seulement un scientifique, même si c'est cela aussi. C'est un philosophe à part entière, et il a un projet d'éducation du législateur. Ce qu'a très bien vu Léo Strauss, ce qu'ont très bien vu les Straussiens.
Et justement, du fait d'une revendication néanmoins de neutralité, et en même temps de jugements qui transparaissent parfois sans se dire complètement, on a pu classer Montesquieu, certains comme Althusser, parmi des auteurs conservateurs, d'autres parmi les pères du libéralisme, avec tout ce que ça peut avoir de repoussoir en France notamment. Et alors justement, j'aimerais à ce titre qu'on revienne sur les différents types de régimes, républicains, monarchiques et despotiques, pour savoir si Montesquieu nous donne des pistes de s'il y a une théorie du meilleur gouvernement, en fait, hein, pour le dire simplement. Voilà. Et si Althusser a raison de le placer parmi les conservateurs ou pas.
Oui, alors c'est vrai qu'Althusser, juste un tout petit mot, hein, parce qu'il y a un chapitre sur Althusser dans le livre. C'est très intéressant parce qu'Althusser, il dit Montesquieu est à la fois révolutionnaire et réactionnaire. Il est révolutionnaire dans la méthode, nouvelle théorie de la loi, invention de la dialectique de l'histoire, découvert du continent histoire, avant Marx, hein, finalement presque le matérialisme historique. Et de l'autre, réactionnaire ou féodal, hein, parce qu'il aurait finalement exprimé les préjugés de son ordre, de sa caste, hein, la noblesse de robe, dont il aurait finalement défendu les intérêts envers et contre tout. Bon. Je pense que c'est une lecture séduisante, qui a beaucoup de brio, dont il faut néanmoins se méfier, parce que, de fait, il y a beaucoup plus de nuances et de subtilités chez Montesquieu que dans cette lecture d'un Montesquieu conservateur. Et je crois qu'il faut quand même que nous apprenions à lire, à revenir à ce qui se passait dans les années 1740. Montesquieu est un penseur extrêmement subversif. Alors, bien sûr, il y a un art d'écrire dans l'esprit des lois. Il ne peut pas tout dire. Il y a une censure politique, une censure religieuse. Et donc, on est toujours en train de chercher ce que Montesquieu veut vraiment dire derrière toute une stratégie d'écriture qui est parfois difficile pour nous à déchiffrer. C'est ce qui rend le fait de le lire aussi passionnant et aussi fascinant. Mais ce qui est certain, c'est que, pour revenir à cette typologie des régimes, Montesquieu a, dans sa typologie, ce qu'on pourrait nommer un pire régime. Il y a une théorie du pire régime. Le pire en politique, le mal en politique, il existe. C'est le despotisme. C'est-à-dire ce régime où un seul gouverne, mais selon son propre caprice, son propre désir, sans suivre des lois fixes et établies, ou des lois fondamentales. Et c'est la raison pour laquelle Montesquieu fait accéder le despotisme, catégorie politique à part entière. Alors qu'avant, dans les classifications chez Platon, chez Aristote, c'était la corruption de la monarchie. Pour Montesquieu, c'est une nouvelle catégorie qu'il faut prendre très au sérieux. Parce que, en fait, toute sa politique, comme on dit parfois, est une politique négative. Comment ne pas sombrer dans le despotisme? Comment éviter l'absolutisme, comme on disait aussi à l'époque? Alors, Montesquieu a-t-il fait un choix en faveur d'un meilleur régime? Alors, je vais donner quelques indices et puis ensuite vous donner ma propre position, mais qui est discutable et que je soumets bien sûr à la discussion. Il y a deux régimes que Montesquieu semble privilégier pour les peuples modernes. Deux régimes qu'il considère comme modérés. Et la modération, c'est la vertu cardinale du législateur. Alors, ces deux régimes sont d'une part l'Angleterre, hein, dont on a eu quelques aperçus tout à l'heure, l'Angleterre après la Révolution glorieuse, l'Angleterre contemporaine, et d'autre part, la monarchie française, dans une version antérieure à celle du temps où Montesquieu vivait. Alors, quand on lit les pensées inédites de Montesquieu, qui viennent d'être éditées, hein, grâce à la nouvelle édition des œuvres complètes, eh bien, on s'aperçoit que Montesquieu avait le projet d'écrire une histoire de France, et un traité du prince, et en réalité, tous les rois de France y passent, et nous savons que c'est à partir de Louis XI, aux yeux de Montesquieu, que la monarchie française dégénère et se corrompt. Alors Louis XII, c'est un peu mieux, mais après Louis XIII, Louis XIV, surtout, voilà, on arrive à la corruption de la monarchie et à un risque très sérieux de despotisme. Et donc le deuxième modèle que Montesquieu prend au sérieux pour les peuples modernes, c'est le modèle d'une monarchie tempérée qui repose sur ce qu'il appelle les corps intermédiaires, les pouvoirs intermédiaires. Donc le monarque, un seul, est la source de tout pouvoir militaire et civil. Donc on a un souverain, source de tout pouvoir. Mais, dit Montesquieu, il y a des pouvoirs intermédiaires qui sont, comme il le dit aussi, les canaux moyens par où coule la puissance. Alors, ces canaux moyens, ce sont d'abord les parlements, Parlement de Paris, mais aussi Parlement de Bordeaux, Parlement de Bretagne, de Toulouse, etc. Et puis, les villes, le pouvoir des villes. Et puis, ce sont des forces sociales. C'est très important qu'il y ait des forces sociales pour soutenir les pouvoirs politiques. Et donc, la noblesse, le pouvoir intermédiaire le plus naturel, hein, d'où les sarcasmes d'Althusser, et puis le clergé, barrière toujours bonne, hein, pour éviter le pouvoir arbitraire du roi. Donc, je crois que Montesquieu ne choisit pas le modèle anglais comme un modèle absolu qu'il faudrait universaliser. C'est très important, à mon avis, pour lui, et Bernard Manin l'a montré mieux que tout autre, de dire que le bien politique n'est pas un. Le bien politique est pluriel. Le bien politique doit se penser en situation, il est toujours partiellement indéterminé, dépendant des circonstances, de la culture des peuples, de leur histoire. Si bien qu'en réalité, on ne peut pas faire ce qu'on a fait au XXe siècle avec beaucoup, de dégâts, c'est-à-dire l'exportation d'un modèle unique de la démocratie. Montesquieu est très défavorable à ce que les Américains appellent parfois les « democratization studies », qui a été ce projet, qui a été porté notamment par des néo-conservateurs américains, d'exporter la démocratie, comme en Irak, par exemple. Pour Montesquieu, ça n'a aucun sens, car une constitution, des lois, se pense en rapport avec l'esprit d'un peuple. Et de ce point de vue-là, l'Angleterre, non seulement elle a des défauts, non seulement elle perdra sa liberté, non seulement elle a une liberté extrême qui n'est peut-être pas la meilleure en soi, mais en plus, son modèle politique ne peut pas être universalisé. Donc, à mon avis, pas de meilleur régime dans l'esprit des lois.
Merci beaucoup. Alors, justement, la question de la liberté est importante dans l'ouvrage et puis importante dans la discussion. Mais, à mon sens, pour en discuter, c'est l'approche que Montesquieu a de la liberté dans l'esprit des lois et pas une approche métaphysique. Il y a aussi un chapitre sur la métaphysique intéressant. Mais une approche politique de la liberté, entendu comme l'opinion que l'on a de notre sûreté. Alors, c'est pas la seule définition qu'il donne. Donc, ça fait surgir au moins deux questions. Si la liberté est seulement l'opinion que l'on a de notre sûreté, cela signifie-t-il qu'elle ne relève que de la subjectivité? Y aurait-il alors des conditions objectives, institutionnelles, de la liberté ainsi comprise?
Merci, là aussi, c'est un massif. Et puis, je voudrais rendre hommage, ici, avant de me lancer dans une grande explication, je voudrais rendre hommage au magnifique travail qu'a accompli Jean Terrel sur notamment le livre 11 de l'Esprit des lois, donc le livre sur lequel, porte votre question. C'est lui qui a repris le flambeau de l'édition critique. C'est si difficile de faire une édition critique de l'Esprit des lois, donc je crois qu'il faut rendre hommage à ce travail. C'est un travail, en fait, presque infini, hein, de savoir exactement, non seulement ce que pense Montesquieu, ça je pense qu'on n'en aura jamais terminé, mais quelles étaient ses sources, quels étaient les auteurs avec lesquels il dialoguait, et finalement... quelle était sa bibliothèque idéale? Comment est-ce qu'on peut se rapporter à cette bibliothèque pour comprendre sa position? Tout ça est fondamental et on progresse peu à peu, hein, dans la connaissance de ces archives. Alors, pour revenir à votre question, la question de la liberté philosophique et de la liberté politique. Je trouve ça passionnant de voir que Montesquieu les distingue. La liberté philosophique, c'est, dit-il, l'opinion que l'on a d'exercer sa volonté. Et il dit « pour parler dans tous les systèmes ». Alors, en philosophie, quand on dit ça au XVIIIe siècle, ça veut dire finalement qu'on ne tranche pas la question de savoir si le libre arbitre existe. Ça, c'est la question du siècle précédent, la grande question de Spinoza, de Leibniz, de Malebranche, après la position de Descartes. Et donc, Montesquieu ne tranche pas. Il ne veut pas ici trancher, en tout cas. Et puis, il définit la liberté politique. Alors, la liberté politique, c'est, dit-il, l'opinion que l'on a de sa sûreté. Et il y a une définition au livre 12 qui est un peu plus complète. Il dit c'est la tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté. Alors, c'est vraiment une définition révolutionnaire, extrêmement originale. C'est la première fois qu'on définit ainsi la liberté politique. Alors, en rapport avec la sûreté, mais pas seulement. En effet, vous l'avez tout à fait judicieusement remarqué, comme une opinion opinion que l'on a de sa sûreté. Et même Montesquieu provoque un redoublement. La liberté, c'est pas seulement cette opinion fugace, éphémère, versatile. C'est la tranquillité d'esprit. Donc c'est un état d'esprit. Alors qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit ? Ben, c'est une forme de sentiment de sécurité. C'est le contraire de la crainte qui régit le gouvernement despotique, qui est un sentiment d'insécurité permanent. Vous croisez la police, vous avez peur de vous faire arrêter. Vous croisez un membre de l'armée, vous rasez les murs. C'est ça, le despotisme, la dictature. Aujourd'hui, on a encore des frissons quand on lit ça. Montesquieu est le premier à définir la liberté par rapport à la question de l'arbitraire du pouvoir politique et par rapport à la question de l'abus de pouvoir. Alors bien sûr, Locke avait déjà abordé cette question à sa façon. Il avait défini la liberté comme liberté sous la loi et contre la tyrannie, en invoquant même un droit de résistance. Mais Montesquieu le fait de manière encore plus centrale. C'est-à-dire qu'il va dégager les conditions de la liberté. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que c'est une des questions les plus passionnantes quand on est un commentateur de l'Esprit des lois, parce que par moment, quand on lit l'Esprit des lois, on peut avoir l'impression que la liberté, c'est un sentiment, comme vous dites, une opinion, quelque chose de purement subjectif. Et qu'au fond, ça pourrait être une illusion complète. On pourrait être dans l'illusion de la liberté. Et même, il y a des textes où Montesquieu semble dire que un bon prince, c'est quelqu'un qui sait manipuler le peuple de telle sorte qu'il se sente libre. Et donc, il y aurait de la ruse, de la manipulation, des stratagèmes, des faux-semblants pour que le peuple se sente libre. Mais alors après, est-ce qu'il l'est vraiment ? Et Montesquieu dit même, alors à propos de l'impôt, par exemple, bon, ben voilà, ça va peut-être vous faire des échos, mais voilà, il vaut mieux des taxes sur les marchandises, ce qu'on appelle la TVA, plutôt qu'un impôt direct, parce que c'est celui que les peuples sentent le moins. Et donc, ils sont dans l'illusion de payer moins d'impôts, ils se sentent moins opprimés. De la même manière, il nous dit, ben, si un ministre était habile, il devrait faire ignorer au peuple qu'il est en quelque sorte pris dans le filet des lois, pour que les individus n'éprouvent pas la contrainte des lois. Donc la question que je me suis posée avec d'autres commentateurs, c'est est-ce qu'il n'y a pas chez Montesquieu quelque chose de machiavélien, l'idée d'un art de gouverner qui donne l'illusion de la liberté ? Et en fait, en y réfléchissant quand même, je me suis dit non, Montesquieu n'est pas machiavélien à ce point. Alors bien sûr, il y a une théorie de l'art de gouverner, c'est même essentiel. Mais Montesquieu écrit aussi, dans un passage qu'il n'a finalement pas inclus dans l'Esprit des lois, c'est ce qu'on a dans le dossier de l'Esprit des lois, dans les manuscrits, il dit c'est le délire de Machiavel. C'est le délire de Machiavel d'avoir voulu donner à la monarchie les mêmes règles, je cite de mémoire, que celles de l'État despotique, alors que ces règles sont en réalité impraticables et qu'elles seraient éminemment dangereuses pour la monarchie. Donc Montesquieu est anti-machiavélien. Il critique Machiavel sur son propre terrain. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas être machiavélien ? Eh bien, il faut des conditions objectives de la liberté. Et donc, si on regarde l'ordre de l'Esprit des lois, livre 11, ce sont les conditions que nous, on appellerait constitutionnelles de la liberté. La distribution des pouvoirs, l'ingénierie des institutions, pouvoir contre pouvoir. Livre 12, les conditions civiles de la liberté. Ce que Montesquieu appelle la liberté du citoyen. Et il s'intéresse surtout aux lois criminelles, ce que nous, on appellerait le droit pénal, la procédure pénale, quelque chose de très nouveau en philosophie. Personne avant lui, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'était un magistrat, personne avant lui n'avait été aussi loin dans la réflexion sur la bonne échelle des peines, comment ajuster les sanctions et les crimes, comment faire en sorte de protéger la liberté d'expression. Comment éviter l'arbitraire pénal et la cruauté pénale ? Enfin, voilà, des thèmes tout à fait nouveaux en philosophie. Et enfin, livre 13, les conditions économiques de la liberté, qu'il poursuivra ensuite, c'est-à-dire finalement les questions relatives à l'impôt. Donc voilà, je crois qu'il y a des conditions objectives de la liberté, sans quoi, effectivement, Montesquieu, ce serait la version prince de Machiavel.
Merci. Alors... Par ailleurs, justement, il y a quelque chose qui est aussi assez connu pour ceux qui ont un peu fréquenté, et ceux qui ont un peu fréquenté Montesquieu, c'est sa théorie des climats, qui peut laisser entendre qu'au fond, Montesquieu serait déterministe et défendrait l'idée selon laquelle ce sont les causes physiques qui déterminent les causes morales, hein, pour reprendre le diptyque que lui-même élabore. Et alors, ce qui permettrait d'expliquer l'accusation de spinozisme, enfin, une des raisons qui permettrait d'expliquer l'accusation de spinozisme à son époque. Alors, est-ce qu'on peut dire ça, Montesquieu serait une sorte de matérialiste, ou bien son explication, son recours aux facteurs causaux n'est-il pas plus complexe, au fond?
Oui, ben là encore, une des questions les plus délicates. Donc, c'est bien, vous m'emmenez sur des chemins un peu, à la fois arpentés, mais en même temps épineux. Oui. La question du rapport entre ce qu'on appelle les causes physiques et surtout climatiques, il y a des pays chauds, voire des pays torrides, il y a des pays froids, glaciaux, et puis il y a des pays tempérés. Hein. L'Europe a la chance, en partie du moins, de vivre en zone tempérée. Et puis, il y a des causes que Montesquieu appelle morales. Et morale, ce n'est pas évidemment la morale, hein. Ce sont des causes politiques, des causes religieuses, des causes économiques, des causes culturelles en général. Alors, la réflexion sur les causes et sur le climat, c'est une réflexion très intéressante que Montesquieu mène dans la troisième partie de l'Esprit des lois, à partir du livre 14. Et ce sont des livres qui ont été très contestés parce que, voilà, Montesquieu joue un peu au savant et selon, par exemple, Pierre Bourdieu, hein, il y a une sorte de rhétorique de la scientificité qui peut susciter le sarcasme. Moi, je ne trouve pas que ça doit susciter le sarcasme, mais certains le pensent. Alors, pourquoi est-ce que ça peut susciter le sarcasme? Parce qu'on voit Montesquieu, en apprenti laborantin, si j'ose dire, prendre une langue de mouton, la mettre sous le microscope, la geler, observer. Alors, qu'est-ce qu'il observe? Ben, il observe que les petits mamelons pyramidaux entre les houppelandes nerveuses, hein, qui forment les terminaisons nerveuses de cette langue de mouton, ben, quand le froid augmente, hein, lorsque la température diminue, eh bien, ces mamelons se rétractent. Et à l'inverse, quand on réchauffe la langue de mouton, eh bien, ces mamelons, au contraire, se dilatent. Et à partir de là, Montesquieu, il aborde toute une anthropologie, une théorie de la contractilité des fibres, à la fois musculaire et nerveuse. Et donc, à partir de cette théorie des fibres, il nous dit, ben, en fait, on va mesurer les degrés de température d'un côté, les degrés de sensibilité de l'autre, et on va faire une corrélation tout à fait scientifique entre ces deux variables mesurables, observables. Et donc, il y a une loi presque biologique qui nous dirait que plus on augmente la température, plus la sensibilité au plaisir augmente. Et donc, les peuples du Midi sont sensibles à la volupté. Mais en revanche, ils peuvent être plutôt paresseux, voire plutôt lâches. Alors, il y a toute une histoire, en réalité, de cette géographie de l'esprit. Ça remonte à Hippocrate, ça remonte à Aristote, ça remonte à Bodin. Et surtout, un médecin anglais qui s'appelle John Arbuthnot, que Montesquieu a connu par le biais d'une traduction. Un ouvrage, hein, c'est un ouvrage médical très intéressant auquel Montesquieu, en fait, reprend cette théorie. À partir du moment où le thermomètre a été inventé, hein, il y a un nouvel outil intéressant, eh bien, on a une manière de scientificiser, si j'ose dire, la théorie hippocratique et la théorie aristotélicienne des climats. Et donc, finalement, Montesquieu va en tirer toute une série de conséquences. Il en tire des conséquences morales. Il dit « Approchez des pays du Midi, vous croyez vous éloigner de la morale ». Donc, en fait, c'est l'imaginaire du sérail, hein, qu'on a déjà dès l'aide persane, un imaginaire de l'érotisme, hein, de la concupiscence. En revanche, hein, plus vous allez vers les pays froids, plus vous allez avoir des individus à la fois dont la machine est difficile à être ébranlée, donc ils sont parfois un peu ivrognes pour pouvoir, pour pouvoir s'animer. Et en même temps, ils sont très courageux pour défendre leur liberté. Et donc, à partir de là, et c'est ça peut-être le plus contestable, on a une géographie de la liberté, et une forme de naturalisation de la servitude. Donc, évidemment, c'est là le point difficile. On peut avoir l'impression qu'il y a des peuples damnés et des peuples élus, que l'Orient, l'Asie, peut-être l'Afrique et peut-être l'Amérique, Montesquieu dit pour l'Amérique, on n'est pas sûr, hein, eh bien, ce sont des peuples damnés, en fait, qui sont condamnés à la servitude, tandis que l'Europe, elle, qui est en zone tempérée, alors, n'est pas voué à la liberté, ça serait un contresens, mais peut accueillir la liberté en fonction des circonstances. Elle peut être plus ou moins libre en fonction des circonstances. Et donc, on pourrait avoir l'impression d'une sorte de restriction des pays qui sont capables d'être mûrs pour la liberté. Alors, je voudrais juste faire une petite incise, parce qu'en tant que philosophe des Lumières, bon, vous aussi, hein, vous avez travaillé sur Rousseau, sur Diderot, il faut savoir que tous les philosophes disent la même chose. Rousseau dit la même chose. Tous les peuples ne sont pas mûrs pour la liberté. Diderot dit la même chose. Hein, ce sont des philosophes. Diderot, il a été à Saint-Pétersbourg, il a rencontré Catherine II, il a eu des échanges. Voilà. Il y a eu toute cette réflexion sur peut-on démocratiser, ça serait trop fort, mais peut-on réformer la Russie, peut-on la faire descendre de son despotisme. Alors là, on n'est pas dans le cas des climats chauds, vous avez remarqué d'ailleurs, mais en fait, certains pays froids peuvent aussi être despotiques. Et Montesquieu nous dit, c'est une formule quand même prophétique, hein, la Moscovie, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, la Moscovie voudrait descendre de son despotisme et ne le peut. Voilà. Donc il y a une géographie politique, comme il y a une géographie de l'esprit. Mais en même temps, je crois qu'il faut être sensible aussi à la subtilité de Montesquieu. Son but, c'est de préserver d'abord, effectivement, la France, et plus généralement l'Europe, du risque de servitude. Montesquieu voit le péril, il voit la fragilité de la liberté, et donc son combat immédiat, c'est un combat contre l'abus de pouvoir, évidemment, d'abord en France, d'abord en Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'il est évidemment indifférent au sort des autres États asservis.
Précisément, justement, pour prolonger cette réflexion au sujet du livre 15, hein, qui porte notamment sur l'esclavage. Comme vous l'avez très justement rappelé, au fond, Montesquieu a l'air de dire que bon, l'Europe doit être abolitionniste. Mais même si l'esclavage fait violence à la nature humaine, on peut comprendre que cette institution existe, notamment dans les pays du Midi. Alors, que dire de Montesquieu ? Est-il abolitionniste ou non ? Parce que c'est vrai qu'on a traditionnellement tendance à le classer parmi les abolitionnistes, et il y a beaucoup de raisons pour cela. Et en même temps, il y a ce type d'affirmation qui peut susciter des réserves.
Vous avez parfaitement raison, et c'est encore un des points de difficulté, décidément, il y en a beaucoup. Dans l'esprit des lois, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je consacre un chapitre à la question de l'esclavage, au sens l'esclavage civil, l'esclavage colonial, et la question de la traite. Alors, je ne pourrais pas produire une théorie complète et systématique ici, mais il faut bien voir qu'il y a d'abord deux affirmations qui peuvent paraître contradictoires au livre 15 de l'Esprit des lois. Donc, d'un côté, Montesquieu commence par nous dire « L'esclavage n'est jamais utile, ni au maître, ni à l'esclave. L'esclavage est immoral. L'esclavage, hein, qui réduit un homme à la propriété d'un autre, l'esclavage est toujours contraire au droit naturel. Il est contraire au principe de toute société. » Donc on pourrait dire, bah oui, c'est une condamnation universelle, radicale, et il faut bien le dire, c'est la première fois dans l'histoire de la philosophie qu'un philosophe formule ce genre de condamnation. Donc, faut quand même le dire. Alors, d'un autre côté, et c'est là qu'on rentre dans les méandres de la suite du livre, Montesquieu, après avoir démoli toutes les pseudo-justifications de l'esclavage, après avoir critiqué tous les sophismes qui entourent cette institution, bien finit par dire que dans les pays chauds ou dans les États despotiques, la liberté ne vaut rien. La liberté ne vaut rien. Et donc les hommes sont prêts à se vendre à un maître, à un seigneur, pour qu'il le protège peut-être d'un pire abus du despotisme. Et là, on commence à se dire, bah oui, mais alors cette condamnation initiale, qu'est-elle devenue ? Pourquoi ces tergiversations ? Il y a une ambiguïté dans le concept même de nature, puisque Montesquieu critique l'esclavage par nature d'Aristote, mais par ailleurs nous dit l'esclavage peut être conforme à la nature des choses, dans les climats chauds, parce que les hommes sont peut-être trop paresseux pour travailler spontanément. Alors, il faut bien voir, face à cette question, que Montesquieu a hésité. Et c'est là que c'est fascinant, parce que c'est une pensée en mouvement. Et il y a un repentir. On le sait parce que dans le manuscrit qui est possédé par la Bibliothèque nationale, il y a un chapitre qui n'est pas présent et qui va apparaître dans les éditions ultérieures de l'Esprit des lois, le chapitre aujourd'hui classé le chapitre 7 du livre 15, où Montesquieu revient sur ce qu'il vient de dire. Il vient de dire, effectivement, dans les pays du Midi, l'esclavage peut être conforme à la nature des choses, et tout se passe comme s'il se rétractait. Et s'il nous disait, en réalité, qu'il avait lui-même produit un discours idéologique qu'il fallait dénoncer comme un discours sophistique. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que c'est parce qu'on a fait de mauvaises lois qu'on a trouvé les hommes paresseux, et c'est parce qu'on a trouvé les hommes paresseux qu'on les a réduits en esclavage. Et qu'il n'y a peut-être aucun climat sur la Terre où l'on ne peut remplacer le travail servile par du travail libre. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'apparaît un argument qui n'est plus l'argument théologique ou l'argument moral classique contre l'esclavage, qu'on trouvait déjà dans beaucoup de textes, de sermons, notamment au nom de la fraternité entre les hommes ou du christianisme, mais l'argument économique, qui va avoir en fait une carrière extraordinaire, notamment en Angleterre. L'argument qui consiste à dire, ben en fait, il suffit d'inventer des machines, on dirait aujourd'hui des robots, l'intelligence artificielle si vous voulez, en tout cas des machines qui fassent du travail pénible, et il suffit de proposer un salaire décent pour qu'en réalité, même le travail le plus pénible, et Montesquieu avait visité les mines du Harz en Hongrie, hein, il l'avait observé, on peut donner en fait, des conditions de travail dignes et décentes à des ouvriers qui acceptent finalement le travail pénible qu'on croit devoir laisser aux esclaves. Et il y a même un chapitre encore plus extraordinaire, le chapitre 8, où Montesquieu propose, et ça rejoint à votre question sur la justice, il propose une expérience de pensée qui permet de revenir aussi sur ce relativisme, soi-disant relativisme. Montesquieu nous dit, bah, imaginez que vous fassiez une sorte de tirage au sort. Bah, y a des boules noires et des boules blanches. Admettons que si vous tirez des boules noires, vous êtes du côté des maîtres, et si vous tirez une boule blanche, vous serez un esclave. Donc il y a évidemment un dixième de maître et 9/10 d'esclaves. Qui est-ce qui voudrait jouer à ce jeu-là ? Qui est-ce qui voudrait prendre le risque d'être du côté des esclaves ? Et d'envisager en fait voilà, cette condition servile, cette condition malheureuse et atroce. Montesquieu nous dit, hein, le cri pour l'esclavage est donc un cri pour la volupté et ça ne peut pas être un cri pour la justice. Donc je crois qu'il faut prendre très au sérieux, en fait, cette indignation. Montesquieu s'est rendu compte, presque au bord du gouffre, que sa théorie, aussi cohérente puisse-t-elle paraître, en fait, n'était pas celle qu'il voulait défendre.
Merci. Alors, presque pour terminer, j'aurais une question sur le doux commerce, parce que c'est aussi une expression bien connue de Montesquieu, et nous pourrions pas nous quitter avant de l'avoir abordé. Je vais vous poser une question sous un certain angle, qui est l'angle de la République. Montesquieu a l'air de dire que les républiques sont des régimes qui valaient pour les petites cités de l'Antiquité. Néanmoins, il a l'air d'affirmer aussi qu'une forme renouvelée de république pourrait voir le jour du fait des pratiques commerçantes. C'est un point sur lequel Pocock, par exemple, a beaucoup travaillé, justement l'humanisme marchand, ce qu'il appelait l'humanisme marchand. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler justement l'analyse de la fonction que Montesquieu attribue au commerce et son lien avec une conception renouvelée de la République ?
Merci, parce que là aussi, c'est une question passionnante sur laquelle on pourrait parler des heures. Mais alors, tout d'abord, un mot sur le doux commerce. Alors, Montesquieu n'utilise pas cette expression qui, en réalité, est rétrospective, mais il dit le commerce, effectivement, adoucit les mœurs. Et c'est presque une règle générale que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces, et partout où il y a des mœurs douces, effectivement, il peut y avoir du commerce. Donc, le commerce guérit des préjugés destructeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le commerce, c'est pas seulement les échanges économiques. Ce sont aussi les échanges culturels. C'est aussi la navigation au long cours. Et ce que Montesquieu appelle la communication entre les peuples. C'est le fait, finalement, de découvrir le monde. Et le commerce a permis aussi, pour Montesquieu, d'accéder à une forme d'histoire universelle. Et donc, Montesquieu considère, alors c'est son optimisme, peut-être naïf, je ne sais pas, il considère que connaître les peuples, les rencontrer, ça peut permettre de dissoudre certains préjugés xénophobes et d'accroître une forme de tolérance. Quand on sait que, par ailleurs, Montesquieu considère aussi que le commerce accroît la liberté et renforce la paix entre les nations, on voit un éloge extraordinaire du commerce, qui n'avait jamais été fait de la même manière avant lui. Alors, pour revenir à la République, il y a aussi une nouvelle forme de République que Montesquieu envisage. C'est vrai, en général, les républiques les plus fréquentes, ce sont les républiques militaires. C'est Sparte, la République militaire par excellence. Alors, dans l'Antiquité, il y a aussi déjà des républiques commerçantes, comme Athènes. La Rome républicaine est plutôt une république non commerçante, plutôt une république militaire. Parmi les républiques commerçantes, Carthage également. Mais évidemment, le grand modèle de la république commerçante, il y en a deux, hein, ce sont les Provinces Unies d'abord, donc la Hollande, et d'autre part, l'Angleterre. L'Angleterre que Montesquieu nomme aussi la nation commerçante, autant que la nation libre. Celle qui a le mieux su se prévaloir de ces trois grandes choses, la religion, le commerce et la liberté. Alors, en quoi le commerce reconfigure-t-il la théorie de la République ? Montesquieu considère que la vertu politique, l'amour des lois, l'amour de la patrie, l'amour de l'égalité et de la frugalité, la préférence pour le bien commun, tout ça, ce sont des choses extraordinairement difficiles. Et les peuples modernes, pour l'essentiel, n'en sont plus capables. Alors peut-être faut-il le déplorer, mais c'est ainsi. Nous ne sommes plus capables d'être vraiment vertueux avec la montée en puissance de l'économie, avec le développement des inégalités de richesse, de pouvoir, de prestige. Et de ce point de vue-là, Montesquieu est assez pessimiste sur le devenir de la vertu politique chez les peuples modernes. Alors ça peut exister exceptionnellement, justement, dans des petites républiques. Alors, en Suisse, Rousseau saura en tirer parti. En Hollande, mais la Hollande est déjà corrompue pour Montesquieu. Et surtout, surtout, en Angleterre. L'Angleterre n'est pas vertueuse pour Montesquieu. Au contraire, ce qu'il découvre en Angleterre, c'est un pays où les passions sont déchaînées. La cupidité, l'ambition, l'ardeur de s'enrichir. Voilà, toutes ces passions sont déchaînées en Angleterre et pourtant, l'Angleterre incarne, on pourrait dire, un nouveau républicanisme, qui sera ensuite considéré par les constituants américains comme le républicanisme moderne par excellence, fondé sur le système représentatif. Et donc, dans la société commerçante, dans la commercial society, qui est régie par les passions et les intérêts, on peut envisager une nouvelle forme de république représentative qui serait en quelque sorte, on pourrait dire, le régime de l'avenir, le régime... Voilà, alors Montesquieu ne dit pas que l'Angleterre est une république, il hésite, et il dit c'est une république qui se cache sous la forme de la monarchie. Mais évidemment, les lecteurs de Montesquieu ont su en tirer parti, aussi bien au moment de la Révolution française, Marat, par exemple, qu'au moment de la Révolution américaine, surtout le moment constituant de Philadelphie, Madison, Hamilton, et ils ont vu en Montesquieu le fondateur d'un nouveau républicanisme.
Merci beaucoup. Pour conclure, justement, vous parlez de la réception par les pères fondateurs américains de Montesquieu, qui a été extrêmement important du fait de sa théorisation du fédéralisme, notamment. Et, me semble-t-il, vous utilisez ce modèle pour parler de la construction européenne. Et donc, ça permet de rattacher aussi ce travail d'histoire de la philosophie avec vos préoccupations pour des questions contemporaines. Précisément, alors, en quoi cette théorie du fédéralisme chez Montesquieu peut-elle nous être utile aujourd'hui pour penser l'Europe ?
Alors, étant donné l'ampleur de la question et peut-être la fatigue qui commence à s'insinuer dans l'auditoire, je vais être très très brève, voilà. Parce que c'est vrai que j'ai consacré un livre de plus de 400 pages à cette question. Bon. Nos démos. Donc, je vais être très très brève. Je veux dire, ce qui m'a fascinée au livre 9 de l'Esprit des lois, c'est que Montesquieu propose une théorie de la République fédérative pour répondre à une question qu'on dirait géopolitique. Comment les démocraties peuvent-elles survivre dans un monde d'empire ? Comment peuvent-elles résister face aux agressions impériales des grandes puissances ? Eh bien, Montesquieu nous dit qu'il n'y a qu'une solution. Les démocraties doivent s'associer, se fédérer pour constituer ce qu'il appelle une société de sociétés. Et donc, Montesquieu nous dit qu'il faut que ces démocraties passent en quelque sorte une convention et que les petits corps politiques deviennent partie d'un corps politique plus grand, un État plus grand, qui sera donc cette République fédérative susceptible de se défendre face aux agressions impériales. Et je considère, peut-être à tort, mais que, étant donné la situation dans laquelle se trouve actuellement l'Europe, et eu égard des nouvelles menaces qui pèsent sur nous, cette solution de la République fédérative n'est peut-être pas un vain rêve.
Je vous remercie. Merci infiniment.